Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Bonjour à toutes et à tous, à chacun et à chacune. Après un petit crochet par Haïti le mois dernier en compagnie de Didier Henry, nous retrouvons cette semaine le monde mystérieux des ovnis, les objets volants non identifiés. Alors depuis un an, sur Radio Grand Ciel, nous abordons ce sujet sous l'angle des sciences humaines ou dures. Au fil des mois, vous avez pu vous familiariser avec la physique de l'information, les théories sur les civilisations dites planétaires. Tout cela en lien avec la problématique des objets volants non identifiés qui continue de défrayer la chronique. Dernièrement, il a été question, vous le savez, du survol de centrales nucléaires en France par des ovnis et non pas par des drones comme cela a été suriné ces derniers mois. Je vous renvoie d'ailleurs à l'article paru dernièrement dans Paris Match ou au reportage diffusé dans l'émission 7 au programme sur France 2. Alors, qui dit ovni ne veut pas nécessairement dire extraterrestre, bien que cette éventualité ne doive pas être écartée d'un revers de main. Elle est d'ailleurs privilégiée par certains spécialistes de la question. Je pense notamment à Jean-Jacques Velasco, ancien directeur du GEPAN. Mais notre invité du jour, lui, s'est fait une toute autre opinion sur la question. Il nous parlera tout à l'heure de l'hypothèse Gaïa à laquelle il s'est rallié. Fabrice Bonvin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ufologue, écrivain, psychologue de formation, auteur de deux ouvrages sur les ovnis, OVNI et les agents du changement et OVNI, le secret des secrets. Alors, ma première question, je la pose à tous mes invités. Quand et comment est né votre intérêt pour les objets volants non identifiés ?
Voilà, alors tout d'abord, merci de me recevoir sur votre antenne. Je suis content de pouvoir m'exprimer. Effectivement, mon intérêt pour les ovnis est né en 1989. Donc, à l'époque, j'avais 14 ans et tout a commencé par une observation. J'ai pu observer ce qu'on appelle un cigare volant. Je l'ai observé de nuit, c'était un phénomène nocturne. Ce que j'ai observé, c'était un alignement de lumière blanche très intense qui a, fait subir une structure, je peux imaginer, des accélérations brutales à virage à angle droit. Donc là, on avait vraiment toutes les propriétés du phénomène OVNI réunies, telles qu'on le connaît, c'est-à-dire une lumière très brillante, une lumière singulière, très étrange, et aussi un comportement aérodynamique de ces lumières qui ne répondent à rien de connu, en tout cas sur Terre. Donc il faut dire que cette observation m'a secoué, même si j'avais que 14 ans, et de là est né mon intérêt pour le phénomène OVNI. Alors j'ai commencé à compulser la littérature sur le sujet, d'abord la littérature en français, puis la littérature anglo-saxonne, qui à l'époque était, je dirais, plus avancée que la nôtre, hein. Internet n'existait pas encore, quoi. En tout cas pas le World Wide Web. Puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des enquêtes moi-même, d'abord dans la région, puis ensuite dans d'autres pays. Je suis suisse et j'habite à Genève, donc d'abord dans la région de Genève. Et puis de fil en aiguille, j'en suis arrivé à échanger avec d'autres chercheurs, d'autres ufologues, continuer mes enquêtes, assister à des conférences, et puis moi ensuite, à donner des conférences et écrire ces deux livres que vous avez cités au préalable.
Alors, quand vous avez enquêté sur le terrain, vous venez de nous le dire, donc en Suisse, mais aussi en Australie et au Brésil, ainsi qu'en France. Alors, quels sont les cas qui vous ont le plus impressionné durant ces années de recherche sur le terrain ?
Si je dois isoler trois cas, j'en isolerai trois qui sont assez différents les uns des autres. Le premier cas est un cas d'observation qui a eu lieu à Froideville en Suisse. Froideville se situe donc en Suisse romande, dans la partie francophone du pays, dans une région reculée, dans la campagne vaudoise du canton de Vaud. Et ce qui s'est passé là, c'est que un ovni de la taille d'environ 30 à 50 cm, de forme ovale et rougeoyant, s'est mis à se promener dans un village. Ce qui est de singulier dans cette affaire, c'est que plusieurs témoins indépendants ont pu observer l'OVNI, ont contacté la police, et la police, à son tour, a contacté l'armée, qui est venue avec une équipe de déminage pour essayer d'identifier le phénomène et de retrouver des traces. Hein. Il faut savoir qu'en Suisse, on n'a pas d'organisme attitré au phénomène OVNI, comme le GEPAN en France, ça n'existe pas. Donc, en fait, finalement, c'est l'armée qui a une base aérienne non loin de là, qui se trouve d'ailleurs à Payerne, qui est allée sur place. Alors, encore plus incroyable dans cette affaire, c'est qu'il y a eu des perturbations électromagnétiques. Il faut savoir qu'il y a une coupure de courant qui a eu lieu, alors que l'OVNI déambulait dans le village. C'est un tout petit village. Et il y a eu même des voitures qui ont vu leur batterie se vider. Voilà. Donc, j'ai appris le cas au travers de la presse. Je suis allé sur place et j'ai essayé de récolter des témoignages. Donc, évidemment, c'est un petit village, donc les gens n'étaient pas très loquaces. J'ai eu de la peine à obtenir des informations, mais ce que j'ai su par la suite, c'est que cet OVNI poursuivait une personne en particulier qui était un enfant et se serait même introduit jusque dans le domicile de cet enfant. J'ai pu aussi m'entretenir avec le policier qui a pris le compte-rendu des observations. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce policier m'a fait comprendre que des observations étaient récurrentes dans la région. Et il se posait lui-même la question de savoir pourquoi il y avait autant d'observations d'OVNI à Froideville. Voilà. Donc, je dirais que ça, c'est un cas qui est très intéressant puisque nous avons plusieurs témoins. Nous avons la police et l'armée qui ont été impliqués. Nous avons des effets physiques, électromagnétiques. Et puis, effectivement, on sent qu'on est en face d'un phénomène qui est doué d'une intentionnalité puisqu'il a suivi un enfant en particulier dans cette affaire. Une affaire que je trouve très intéressante, très révélatrice du phénomène OVNI. Ensuite, peut-être un deuxième cas, toujours en Suisse, est un cas d'une femme qui, durant plus d'une dizaine d'années, dit avoir été enlevée par des extraterrestres, ceux qu'on appelle les petits gris. Et donc cette personne, durant 2-3 heures, j'ai pu m'entretenir avec elle et elle m'a fait part de ses expériences, donc dites d'enlèvement par ce qu'on peut dire être une race d'extraterrestres, à des fins, je dirais, de génétique. Donc c'est vraiment, je dirais, le scénario classique des petits gris qui enlèvent des êtres humains à des fins de peut-être de croisement ou de création d'une race hybride. Elle, ce qui est intéressant, c'est que dans son cas, elle dit avoir été enlevée pas pour se voir prélever des matériaux génétiques, mais pour s'occuper des êtres qui étaient le fruit en fait de ces croisements génétiques entre les extraterrestres et les humains. Et quand je dis s'occuper, c'est donner de l'affection, puisqu'apparemment, les gris sont incapables de donner de l'affection. Ils sont un petit peu comme des robots. Voilà, donc c'était très, très pour moi, très, pas choquant je dirais, mais incroyable d'être en face de cette personne qui est saine de corps et d'esprit, une personne qui ne cherchait pas à attirer l'attention sur sa personne, puisque c'est moi qui suis venu à sa rencontre, qui n'avait pas besoin d'argent, je ne sortais pas de motivation financière derrière, de motivation aussi au niveau de l'ego. C'était quelqu'un qui tout simplement me racontait son histoire qui était complètement incroyable au sens littéral du terme sur ces épisodes d'enlèvement.
Oui, ce témoignage vous a, j'allais dire, vraiment secoué. Ce témoignage incroyable, vous venez de le dire, vous l'avez cru sur le champ, vous avez pris du temps pour l'analyser. Comment vous en êtes ressorti?
Alors, évidemment, quand je suis allé la voir, je connaissais déjà très bien le dossier des enlèvements au travers des travaux de Bud Hopkins, de John Mack ou de David Jacobs, pour en citer que quelques-uns. Mais je les avais toujours entendus, je dirais, lus, vus en vidéo, mais j'ai jamais eu en face de moi une personne qui me regardait droit dans les yeux et qui me racontait son vécu, sa souffrance, ses émotions, ses sentiments et son parcours. C'est une chose de lire ça dans un livre, mais c'est une autre d'avoir cette personne en face. Vous voyez bien que c'est quelqu'un de saint d'esprit, surtout que c'est quelqu'un qui a eu de hautes responsabilités durant sa carrière. Et vous dites, mais c'est incroyable, il y a un décalage entre ce que je peux observer, ce que la personne me dit, et ce que on me dit que la réalité est. Voilà, donc c'est ça qui est incroyable. Et ce qu'elle m'a dit ne m'a pas surpris, puisque je retrouve les mêmes témoignages dans la littérature, mais j'étais, je dirais... Oui, un petit peu choqué d'avoir une personne me dire ça en face de moi.
C'est une personne dont la vie a changé depuis qu'il lui est arrivé ce phénomène d'abduction.
Oui, tout à fait. Ouais. Oui, bah, ça fait écho à mon livre, hein, ouais. Les agents du changement. On en reparlera peut-être un peu plus tard durant l'émission. Mais là, j'ai vraiment pu mesurer l'impact du phénomène sur la vie d'une personne, puisque ces enlèvements ont duré durant une dizaine d'années et de manière très récurrente.
Ouais. Alors, comme de nombreux chercheurs contemporains sur les ovnis, vous insistez sur la dimension psychique du phénomène et surtout sur son interaction avec la conscience humaine. Alors, qu'entendez-vous par là? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples éclairants à ce propos? Interaction entre le phénomène et notre conscience?
J'estime qu'il est difficile d'étudier le phénomène OVNI sans prendre en compte la composante de la conscience dans son déploiement. Alors, pour donner quelques exemples concrets à ce sujet, bah déjà, il y a tous les phénomènes d'altération de la conscience. Je parlais avant du cas de cette personne qui se dit être enlevée par les extraterrestres. On sait que, en contact avec le phénomène OVNI, la conscience des témoins peut être altérée, par exemple, sous la forme de ce qu'on appelle des temps manquants, des missing time. C'est-à-dire que vous avez une période de temps qui mystérieusement disparaît. La personne n'a plus de souvenirs conscients de ce qui s'est passé durant cette période. Donc là, on est clairement, je dirais, en face d'un phénomène d'altération de conscience. Nous avons aussi tous ces témoignages de personnes qui disent observer des ovnis et durant cette observation, l'environnement immédiat semble complètement changé, les gens semblent basculer dans un autre niveau du réel, dans un autre état du réel, semblent être comme dans une bulle spatio-temporelle où tout l'environnement aux alentours, je dirais, se liquéfie, devient évanescent. Il y a de nombreux témoignages à ce sujet-là. Et aussi, bah, je dirais, tous les cas aussi de souvenirs écran dans les cas d'enlèvement, de neutralisation aussi des autres témoins qui ne doivent pas voir ce qu'ils doivent voir. On connaît bien le cas, par exemple, de Maurice Mass. Maurice Mass qui a observé deux ufonautes ou deux occupants d'OVNI et il a été paralysé. Comme paralysé, alors c'est intéressant parce que certaines, je dirais, capacités de son cortex était actif, mais d'autres étaient désactivés. Donc, il était paralysé physiquement, mais il était capable quand même d'observer la scène. Donc, on sent vraiment que le phénomène a une très bonne maîtrise, je dirais, de l'environnement et également peut influer sur la conscience des témoins. Et peut-être une deuxième chose, c'est que notre conscience peut être utilisée pour s'approcher du phénomène OVNI. Beaucoup de psychologues et beaucoup de chercheurs se sont rendus compte que en altérant notre état de conscience, d'une manière ou d'une autre, on peut plus facilement faciliter le contact avec les intelligences qui se trouvent derrière ce phénomène.
Alors, c'est-à-dire altérer la conscience. De quelle manière?
Ah, bah, tout simplement, alors bon, je vais peut-être vous donner un exemple assez concret par rapport à ça. Vous connaissez peut-être les expériences qui ont été faites par le psychiatre Rick Strassman à l'Université du Nouveau-Mexique. Pour faire bref, dans les années 90, il a reçu l'autorisation de tester une molécule qui s'appelle la diméthyltryptamine ou DMT, à l'inoculer à une cinquantaine de patients afin de voir ce qui allait se passer. Et en fait, il a inoculé cette molécule dont la propriété est d'avoir un effet sur la conscience. On peut imaginer, par exemple, gérer l'influence du LSD sur le cerveau. Pour vous donner une idée, la DMT fait partie de la même famille que le LSD. Donc, si on veut, c'est une drogue psychoactive qui a la propriété d'altérer la conscience. Eh bien, toutes les personnes auxquelles cette molécule a été inoculée par intraveineuse ont rapporté des observations d'OVNI, ont rapporté des récits d'enlèvement, d'être en contact avec d'autres intelligences sur d'autres plans de réalité. Et ce sont des témoignages qui sont vraiment très similaires de ce qu'on trouve dans la littérature ufologique sur les enlèvements. Voilà. Donc là, on a dans cet exemple, on a induit un état modifié de conscience, ce qui a permis d'une certaine manière de s'approcher, je dirais, d'une intelligence que l'on ou de récits que l'on retrouve dans les rapports d'enlèvement extraterrestres.
Alors, en quoi cette dimension, parce qu'on le verra tout à l'heure, vous avez cru, comme beaucoup de chercheurs, à l'hypothèse extraterrestre, vous n'y croyez plus, mais je vous pose tout de même la question, en quoi cette dimension psychique, cette manipulation de la réalité, comme vous dites, invalide-t-elle, l'hypothèse extraterrestre? Est-ce qu'au contraire, on ne devrait pas s'attendre à cela de la part d'une civilisation avancée, puisque vous venez nous dire, nous-mêmes, on est capable finalement de produire des altérations de conscience, par des, substances ou d'autres?
Je Je ne dirais pas que la dimension psychique invalide l'hypothèse extraterrestre, mais je pense qu'elle montre ou suggère que les choses sont beaucoup plus complexes que ce que certains chercheurs, qui sont des défenseurs de l'hypothèse extraterrestre au premier degré, le pensent. Les choses sont beaucoup plus complexes et je vais vous donner quelques exemples. C'est-à-dire que si on étudie le phénomène OVNI dans sa longévité, maintenant on a ce recul historique de le faire, il faut savoir que l'ufologie contemporaine est née en 1947, on s'aperçoit que le phénomène OVNI s'adapte à l'ère du temps ou au zeitgeist. C'est-à-dire qu'il s'adapte surtout de point de vue formel. La forme du phénomène s'adapte à nos représentations et à nos connaissances techniques. Je vais vous donner un exemple encore plus concret. À partir des années 80-90, le phénomène OVNI a commencé à prendre une forme triangulaire. Et cette forme triangulaire fait écho à nos propres recherches sur les bombardiers furtifs, par exemple. Donc on voit que le phénomène, si vous voulez, s'adapte à notre psychisme, à nos représentations inconscientes collectives, mais aussi au psychisme de chaque individu. Et effectivement, on peut aussi l'observer dans les cas de mimétisme. Le phénomène OVNI imite certaines de nos réalisations technologiques ou anticipe certaines de nos réalisations technologiques. Je vais vous donner un autre exemple, la vague de 1897 aux États-Unis, une des premières vagues d'OVNI documentées, donc elle a plus de 100 ans. Eh bien là, les témoins observaient des dirigeables fantômes ou des dirigeables volants qui, si vous voulez, anticipaient les représentations qui étaient faites par des auteurs de science-fiction ou même des projets de recherche et développement des ingénieurs de l'époque. Mais on sait qu'à l'époque, et encore maintenant, les performances aérodynamiques de ces engins ne sont ou n'étaient pas possibles. Donc on a vraiment un phénomène qui est en résonance avec notre propre psychisme et avec notre propre représentation, je dirais, de ce qui est possible techniquement, par exemple. C'est pour ça que si vous regardez, par exemple, la vague française, la plus grande vague d'OVNI qui a eu lieu en France, elle est la vague de 1954. Vous les regardez maintenant avec le recul que nous avons de plus de 60 ans, vous vous rendez compte que les descriptions des engins et des êtres qui les accompagnaient sont complètement ridicules, et je dirais kitsch. Donc on est vraiment en face d'un phénomène qui s'adapte. Et il peut être extraterrestre, j'ai pas de problème avec ça, mais on doit prendre en compte le fait que c'est un phénomène qui, en tout cas d'un point de vue de sa forme et de ses apparences, s'adapte à notre psychisme.
Alors, et pourtant,
on ne peut pas étudier correctement le phénomène OVNI.
Ce que vous dites est intéressant. Pour autant, il y a des photos également, il y a des traces au sol, ce qui implique une masse, un poids, puis des photos, voilà, des photos d'OVNI ovales. Si ces objets ont été photographiés, c'est bien qu'ils existent dans notre réalité, dans nos dimensions, j'allais dire. C'est très difficile à comprendre, finalement.
Mais je suis absolument d'accord avec vous. Les ovnis sont physiques, mais ils ne sont pas que cela. Et ce que j'observe, c'est que les ufologues, comme moi, ont étudié, je dirais, la composante physique depuis le début des années 50, en pensant pouvoir trouver une réponse au phénomène. Mais on voit bien que ce postulat, qui est un postulat matérialiste du phénomène OVNI, n'a pas mené à grand-chose. Que sait-on maintenant, après plus de 60-70 ans sur le phénomène OVNI? On ne sait pas grand-chose. Je l'ai résumé en début d'entretien. On sait que c'est un phénomène qui est une intention, c'est que c'est un phénomène qui est doué de propriétés aérodynamiques hors du commun, mais ça s'arrête là. Et pourtant, on en a analysé des photos, on en a analysé des implants, on en a analysé des traces au sol. Mais à quoi bon? Donc moi, en fait, mon approche était d'étudier les témoins pour en apprendre davantage sur le phénomène, et en particulier sur ses intentions. Et à partir de ces intentions, à se poser la question, à qui profite le crime, et essayer de comprendre quelle est son origine. Ouais. Et j'en suis arrivé à la conclusion que l'écologie joue un rôle important dans les manifestations de ce phénomène. Alors, et je vais peut-être encore ajouter autre chose par rapport à la matérialité du phénomène. C'est vrai que maintenant, avec nos acquis en physique quantique, eh bien, on se rend compte que l'essence de notre monde n'est pas de nature matérielle ou physique, mais plutôt de nature, je dirais, informationnelle. Et on se rend compte que la conscience a un rôle important à jouer carrément dans la phénoménologie de notre réalité. Hein. Les expériences en physique quantique l'ont montré très clairement. Donc le phénomène OVNI, ce qui est intéressant, et c'est ce que dit aussi Jacques Vallée, remet, ou je dirais, pose un défi à notre façon de concevoir le réel et nous fait dire que notre manière de le concevoir est peut-être faux. Donc évidemment, nous vivons dans la matière et dans un monde en quatre dimensions. On doit faire avec la matière et on doit analyser le phénomène au travers de sa composante physique. Mais le phénomène OVNI est beaucoup plus que ça. Il a aussi une composante psychique très importante. Et faire économie de cette analyse, pour moi, c'est passer à côté de beaucoup de ce que le phénomène nous dit et nous interpelle.
Alors, donc, je le disais, hein, vous défendiez au départ l'origine extraterrestre des ovnis. Aujourd'hui, vous dites que les ovnis sont en quelque sorte, entre guillemets, la voie de la Terre. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse Gaïa. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit très précisément?
Oui. Donc, la voie de la Terre, moi, je dirais plutôt que les ovnis sont l'expression de la somme des consciences qui se trouvent sur Terre. Donc, l'hypothèse Gaïa est une hypothèse qui a été développée dans les années 70 par James Lovelock et qui est une hypothèse qui est scientifique. Elle a été testée, elle a été mise à l'épreuve et elle a été, je dirais, validée de manière scientifique. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette hypothèse? Elle dit que la Terre est un organisme vivant au même titre que vous et moi sommes des organismes vivants, ce qui veut dire que nous avons, que la Terre a au sein d'elle-même des mécanismes d'autorégulation qui lui permettent d'atteindre un objectif, et cet objectif est la conservation de la vie sur Terre. Comme vous avez aussi au sein de votre organisme, je dirais là, une température régulée pour être à 38,5, et vous avez des systèmes d'autorégulation homéostatique qui permettent de faire en sorte que vous retrouvez l'équilibre tôt ou tard. Eh bien, la Terre, c'est la même chose. Et si vous voulez, moi, avec l'aide de philosophes et de spécialistes, j'ai poussé le raisonnement plus loin en disant, bah oui, mais peut-être que la Terre a également aussi une conscience, en plus d'être un organisme vivant. Et c'est ce que laissent croire différentes recherches, dont une recherche qui a lieu à l'université de Princeton, qui s'appelle la Global Consensus Project et qui tend à prouver effectivement que notre planète est dotée d'une conscience. Et en fait, moi, comment j'en suis arrivé à cette conclusion que le phénomène OVNI est lié à cette conscience planétaire, c'est qu'effectivement, j'ai constaté, et ça, ce sont des faits qui parlent, que le phénomène OVNI est relié au nucléaire en particulier et à l'écologie nucléaire. À l'écologie globale, je dirais, voilà. Bon, alors j'ai beaucoup d'exemples à donner hein, là-dessus. Alors je vais peut-être donner deux exemples. Le premier exemple, c'est que, en fait, on observe que les vagues d'OVNI ou les apparitions d'OVNI sont corrélées positivement avec les essais nucléaires, voilà, qui ont commencé en 1945 et se sont grosso modo arrêtés en 1992. Donc, si vous voulez, à chaque explosion nucléaire, on a pu observer des observations d'OVNI. Donc là, il y a un lien OVNI-nucléaire qui est fort. Ça, c'est une chose. Et puis, la deuxième chose, eh bien, c'est l'impact sur les témoins. C'est-à-dire que les témoins, qu'ils soient simples observateurs d'OVNI ou enlevés par des, entre guillemets, extraterrestres, eh bien, effectivement, développent une conscience écologique, développe un autre rapport aux autres, une manière de voir et de concevoir les rapports avec les différentes formes de vie sur Terre qui sont plus en respect et qui sont plus en adéquation avec justement cet objectif de conservation de la vie sur Terre. Donc en fait, c'est en étudiant le rapport entre les ovnis nucléaires et en étudiant l'impact qu'a le phénomène sur les témoins que j'en suis venu à la conclusion que le phénomène OVNI était probablement, je dirais, généré par une forme de superconscience sur Terre. Et peut-être un troisième élément qui est important, c'est que le phénomène OVNI, si vous voulez, si on l'observe vraiment, on l'étudie avec minutie, on se rend compte qu'il a une très bonne, très, très bon contrôle des conditions dans lesquelles il apparaît. Il se laisse jamais attraper avec le doigt dans le pot de confiture, si vous voulez. Si vous voyez ce que je veux dire. On a très peu de preuves, on devrait avoir beaucoup plus de preuves. C'est un phénomène qui est fugace, mais qui cherche à se faire voir. Il est une nature ostentatoire et il est, si vous voulez, il est en parfait contrôle des paramètres dans lesquels il se déploie. Donc c'est un phénomène qui est pour moi très proche de nous. D'une manière ou d'une autre, il connaît très bien notre environnement. Et je pense qu'on le nourrit. Je pense que la somme des consciences sur Terre nourrit ce phénomène.
Alors, je vous pose une question parce que cette hypothèse me semble moi, tout de même assez surprenante. On peut imaginer, comme vous le faites, pourquoi pas, que la Terre est une conscience, qu'elle soit un organisme vivant, cela va de soi, qu'elle est une conscience, mais de là à fabriquer des engins, comment le pourrait-elle fabriquer des engins, les montrer, les diriger, comment le pourrait-elle, par quel biais?
J'ai pas de réponse à cette question. C'est vrai que mon approche était une approche de psychologue. C'est pas une approche de physicien. Donc en ce qui concerne effectivement la matérialisation de ces phénomènes, j'ai pas de réponse à donner. Par contre, j'observe que le phénomène OVNI est capable de se scinder en deux, de se reformer, d'avoir un état, je dirais, une maîtrise de la matière qui dépasse ce qu'on connaît. C'est pour ça que je disais que le phénomène OVNI est plus que matériel, il est aussi psychique. Et là encore, je dirais que ces manifestations nous renvoient à ce qu'observent les physiciens en physique quantique. C'est-à-dire qu'il peut avoir plusieurs états en même temps, vous savez que des particules peuvent avoir un état d'onde ou de particules, enfin, certains éléments. Eh bien, avec le phénomène OVNI, on a l'impression qu'il peut être en même temps psychique et physique. Et souvent, les témoins ont l'impression que ces phénomènes sont vivants. J'ai des témoins qui m'ont dit « j'ai l'impression que le phénomène respirait ou pulsait. J'ai l'impression d'être en face d'un objet biologique. » C'est pour ça que j'ai appelé ces phénomènes des phénomènes biomécaniques. J'ai l'impression qu'ils sont d'une manière très matérielle, et c'est ce que j'ai pu observer en 1989 en Espagne, ma première observation, parce que j'en ai fait d'autres. Phénomène vraiment très matériel, très sous-coupique, je dirais avec des hublots. Hein, c'est un phénomène qui a des hublots, donc c'est vrai qu'on est vraiment dans l'hypothèse extraterrestre. Mais de l'autre, comment expliquer que ce phénomène n'a pas, lorsqu'il a fait cette accélération à 90 degrés de manière fulgurante, de vagues supersoniques, comment n'a-t-il pas créé des... Donc c'est un phénomène qui maîtrise complètement la matière, qui est, à mon avis, qui va au-delà de l'essence de la matière. Il est avant tout, à mon avis, psychique que physique.
Fabrice Bonvin, on arrive au terme de cette émission, on est à 29. De toute façon, on se reparlera parce qu'il y a un livre qui est en cours de parution. Il s'agit d'un ouvrage collectif et pluridisciplinaire qui rassemble les travaux de quelques scientifiques sur la question des ovnis. C'est un travail que vous avez dirigé, je crois que même vous en êtes à l'origine. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais là on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie et je vous renvoie nos auditeurs à vos livres, OVNI, les agents du changement et OVNI, le secret de secret. C'est publié aux éditions JMG. Merci beaucoup. We got married in a fever, hotter than a peppermint frown. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. Let's go on down to Jackson. Go ahead and wreck yourself. Go pay your hand, you big talking man. Make a big fool of yourself. Yeah, go to Jackson. Go comb your hair. I'm gonna snowball. Into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat. I'm going to Jackson.